Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Des femmes et des lieux, aujourd'hui, chambre vide, soleil, matin, n'importe où.
Lorsque vous parlez des femmes, vous parlez très souvent des lieux. Vous avez beaucoup évoqué New York, dans Femmes, et puis bien entendu toutes les villes d'Europe que vous aimez.
Et puis Venise, avec Dominique, bien sûr, qui est la dédicataire du dictionnaire amoureux de Venise, ou l'expression que je trouve juste en ce qui la concerne, pour la grande, petite, jolie, belle beauté. Donc ça veut tout dire. Et puis New York, ça a été beaucoup avec Julia, et notamment, là je vous ai déjà dit que je la squattais, hein, à Washington notamment. Oui, c'est Paris, New York, Venise, et après ça, bon, c'est pas la peine.
Rome,
mais en passant. Je n'ai pas une passion pour Rome.
Barcelone,
dans ma jeunesse, la ville est tombée d'une certaine façon, parce qu'il n'y a plus ce grand mouvement de joie populaire qu'il y a eu à cette époque. Non, Venise, parce que si on sait prendre l'endroit qu'il faut, l'angle où on ne sera pas dérangé ni vu, c'est une ville pour le futur.
Attenzione quando scendono dal vano del
Vous en parlez effectivement à plusieurs reprises dans plusieurs de vos livres. Mais bon, il y a des choses assez classiques qu'on connaît bien. Hein, le changement de plateau quand on arrive, c'est votre expression. Cette impression comme ça de vitalité, d'énergie incroyable dans cette ville. On lève un bras, un taxi arrive, le jour tombe, ça se passe ailleurs, etc. Alors qu'à Paris, vous dites, parce que vous opposez un peu les deux villes. Vous aimez énormément Paris pourtant.
Bien sûr, oui, c'est là. Il n'y a que Paris, finalement. Non, il n'y a que les Français ou les Parisiens qui ne s'en rendent pas compte. Ils ne savent pas utiliser Paris.
Comment opposeriez-vous ces deux villes? Opposeriez-vous ou compareriez-vous?
New York est une ville, c'est un grand port. Attention, l'océan est là. J'habitais beaucoup du côté de l'Hudson, etc. Bon, c'est un port d'une puissance considérable. Le ciel est très haut. On essaye de le gratter. L'architecture est admirable, gigantesque, admirable. Une ville en constant renouvellement. Bon, ça tourne. C'est pour dire, New York, hein, pas les États-Unis d'Amérique, hein, un peu Chicago si vous voulez, mais bon, c'est la ville, bon, d'abord c'est la capitale de l'Empire, hein, voilà, donc c'est intéressant de voir comment la fréquence est constante. Paris, il y a plusieurs Paris dans Paris. Il y a plein de Paris différents les uns des autres. C'est ça la chose à laquelle il faut être sensible. Selon que vous changez de quartier, et assez vite, vous avez une autre ville, et puis encore une autre ville, et puis encore une autre ville, et encore une autre ville. Voilà. Donc il faut, là encore, c'est le problème de trouver l'endroit stratégique où s'implanter. Là où je vis à Paris, entre l'Observatoire et le Luxembourg, c'est un lieu absolument magique. La fontaine de Carpeaux me dit quelque chose, le Luxembourg, etc. Les parcs de Paris, voilà. Paris, non seulement à cause de son histoire, vous savez comment Rimbaud l'appelle dans Paris sur le peuple, ville sainte, assise à l'Occident. C'est tout à fait étonnant. Ville sainte, pourquoi ? Mais l'histoire de Paris, les fantômes de Paris, les mystères de Paris, la révolution à Paris, tout cela est absolument énorme. Alors, je vous disais qu'il n'y a que les Français pour ne plus s'en rendre compte, parce qu'ils vivent devant leur petit écran de télé, dans leurs petites histoires. Maintenant, songez qu'on en est aux apéros géants de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a rien de plus misérable que cette affaire ? Bon. Paris, c'est une grande ville historique. New York, non. C'est une ville tombée, en quelque sorte, du ciel, énergique, parce que c'était une pulsion de vie, de survie. C'est les deux endroits au monde, je crois, les plus révélateurs. La ville des villes, formule de Casanova, Madame de Pompadour, lorsqu'elle lui dit « Vous venez de là-bas, Venise ?» Il dit « Mais madame, Venise n'est pas là-bas, mais là-haut. » C'est très très beau. Il est célèbre le soir même pour avoir dit ça. Alors évidemment, il y a une possibilité, mais je ne pense pas que ce soit vivable pour moi, pour l'instant. Mais il y a Shanghai et Pékin. Il y a un livre qui vient de paraître juste maintenant aux éditions Robert Laffont, qui s'appelle Shanghai, où il y a d'ailleurs un entretien d'un type avec moi, qui me libère enfin de tous ces trucs de maoïsme, etc., qui me fait parler de ma découverte de Shanghai en 1974, c'est-à-dire du silence, d'un certain silence chinois. Gigantisme, mais impressionnant dans les petites dimensions. Les Américains ont de grandes dimensions, c'est la spatialité, l'architecture, etc. Ben bon, c'est évident. Regardez comment mon ami Porte Zampar a réussi à se glisser sur la 5e avenue, à faire une petite torsade. C'était extraordinaire qu'il ait réussi à faire ça, parce qu'il faut tout payer. Il y a les camions, tout est contrôlé. On peut pratiquement rien faire. C'est très cher. Il faut beaucoup d'argent à New York. Alors qu'il n'en faut pas forcément beaucoup à Paris. À New York sans argent, vous êtes vraiment au rebut.
Vous parlez aussi en européen, souvent.
Oui.
Vous vous sentez très européen, vous le dites à plusieurs reprises dans vos livres.
Absolument, ça c'est pour essayer de désenclaver ce malheureux hexagone qui n'arrive pas à voir que ça revient à être deux fois plus français que les Français d'être européen. Hein ? Ça veut dire quand le français était la langue vraiment de l'Europe. Quand Voltaire était l'aubergiste de l'Europe, comme a dit René Pomeau. Donc c'est cette espèce de rétraction, de paralysie, alors que le français est, par définition, l'européen, aura été. C'est maintenant le plus réticent. Non, mais je vous parlais des villes, mais Amsterdam est une ville où j'ai vécu. Bon, j'ai voyagé beaucoup en Allemagne, j'ai voyagé beaucoup un peu partout, en Espagne, en Italie. Voilà.
Bordeaux est une ville européenne, vous dites ?
Bordeaux est probablement une des plus grandes villes européennes qui soit.
Bordeaux, chez vous, on le rappelle.
Les ports, en général, les ports. Mmh. Les ports sont forcément, vous avez Hambourg, vous voyez que Hambourg, c'est la ville où Hitler ne voulait pas aller, parce que c'était une ville déjà presque anglaise. Londres est un port aussi, d'une certaine façon. Barcelone, Naples, bon, voilà. Saint-Sébastien, mais c'est pas un port, mais enfin, c'est l'océan qui est là, c'est l'eau.
Et puisque l'on parle de toutes ces villes, parlons des langues que l'on parle dans les villes. Alors New York, évidemment, on y parle toutes les langues, et beaucoup l'espagnol.
Heureusement pour moi.
Vous dites des choses très drôles sur l'anglais, les bourgeoises américaines qui parlent anglais. Pour vous, c'est un des sons les plus affreux.
Je n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'ils disent en yankee. je suis sudiste, je ne comprends pas les yankees.
Dix bourgeoises américaines.
Je comprends très bien les anglais, parce que, oh well, voilà, c'est normal, au moins c'est distinct.
Donald Duck. Dix bourgeoises américaines en train de vociférer et de rire sont pour moi une assez bonne définition de l'enfer.
Oui, c'est ça.
C'est de vous, oui.
J'ai vu ça à Venise quelquefois. Ça fait un bruit fou, ça effraie les mouettes.
Et l'italien est beau. la langue italienne.
Merci. J'ai commencé d'abord à parler très bien l'espagnol pour des raisons personnelles. Et ensuite, je me suis mis à l'italien, ce qui fait que les deux langues se contaminent l'une l'autre maintenant. Plus je m'entends en italien, j'ai fait ça pour lire Dante vraiment dans l'original et pour attraper la musicalité, en fait, la musicalité italienne. La musique est italienne. Donc, je perds l'espagnol au fur et à mesure que je parle mieux l'italien. Ma come no.
Et le français, bien sûr, langue royale, dit votre chère Céline.
Oui, il n'y a que foutu baragouin tout autour. Céline, le français est langue royale. Eh bien, il n'a pas tort, sauf qu'il n'y a que les Français qui ne s'en aperçoivent plus. Pas. Tant pis. Une fois que le français pourra être considéré comme une langue morte, ce qui va arriver assez vite, j'aurais été un des derniers écrivains maniant, d'une façon légère, j'espère, et inspiré, une langue morte.
On a évoqué Paris, on a évoqué New York. Quand je vous ai parlé de Rome, vous avez très vite évacué. Et pourtant, Rome, on sait que Venise...
Trop vite, parce que je voulais...
On sait que Venise est important, mais Rome quand même, et notamment... vous en parlez très joliment, notamment dans Femmes encore, mais aussi dans Un vrai roman et dans bien d'autres livres.
C'est parce que je n'ai pas choisi Rome comme lieu d'habitation. Je ne serais pas heureux d'habiter Rome. Parce que le Tibre, c'est un petit cours d'eau et ça manque d'eau. Voilà. En revanche, tous les lieux, disons sacrés, de Rome m'attirent puissamment. La montée vers Saint-Pierre de Rome, sur cette place où il y a les obélisques, les fontaines, etc. Bon, la montée progressive par petites vagues successives vers cette basilique. Michel-Ange. Il y a deux places qui m'ont vraiment fasciné en marchant très doucement, en voyant comment l'espace se dispose par rapport à la conviction qu'on a d'être là, pas tout à fait pour rien. C'est la place Tiananmen à Pékin, ou alors c'est la montée vers le Temple du Ciel. Bon, le Temple du Ciel et Saint-Pierre de Rome. Là, immédiatement, problème historique très important pour moi. Qu'est-ce que ça aurait pu être que la rencontre entre, au XVIIe siècle, entre la Chine et l'Occident, ratée, malgré la sublime prévision jésuite de Matteo Ricci, dont voilà, on les a querellés, on les a trouvés qu'ils allaient trop loin, et ça s'appelle la querelle des rites. On aurait pu gagner beaucoup de temps en évitant beaucoup de choses, puisque de toute façon la question se reposera de plus en plus. Alors, dans Rome, c'est là. J'ai toujours été frappé, c'est une remarque d'un directeur de journal influent qui m'a dit « Mais on a l'impression que c'est un lieu qui n'est pas fait du tout pour la prière, pour le recueillement. » Bon Dieu, vous entrez à droite, vous avez cette sculpture de Michel-Ange, c'est-à-dire la Pietà. La Pietà, c'est une jeune, très jeune fille qui porte sur ses genoux un très, très, très long cadavre d'homme. Vous regardez ça, ça attire en général, en effet, les cinglés. C'est comme la Joconde. Il y a des gens qui viennent, qui essayent de taper avec des marteaux. C'est puissamment mobilisateur de fantasmes et de psychoses. L'Église catholique, d'ailleurs, est faite pour ça. C'est une psychanalyste. Ah là là, oui, bien sûr, oh combien. Donc, vous entrez là, et juste à droite, vous avez... la chapelle du Saint-Sacrement où est adoré le Santissimo, comme on dit en italien, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même. Il y a très peu de monde, un silence assourdissant. Recueillement invraisemblable, vraiment le silence s'entend. Et vous avez là trois ou quatre religieuses qui sont au premier rang, qui sont en cours de récitation, de prière intérieure constante. Hein. Il Signore con te, sei benedetta fra le donne, il frutto del tuo seno, Gesù. Il frutto del tuo seno, le fruit de ton sein, pas des entrailles, comme on dit en français. Autre chose. Bon, vous restez là un certain temps et vous sentez une sorte de pression rythmique dans le silence, même dans la prière, hein, intensif. Bon, puis vous ressortez, et là vous êtes devant alors le baldaquin de Bernat, le génial Bernat, dont Louis XIV n'a pas voulu finalement. Donc le Louvre aurait pu être autre. Ça a été rattrapé par un Chinois, comme par hasard, paye les pyramides. Donc on perd du temps. Rome n'en a pas perdu, c'est immédiat. Il y a une liberté de architecturale et acoustique. Alors vous êtes devant ce baldaquin, c'est baobab, vous savez, quatre. Hein. C'est vraiment d'une audace étonnante. Et puis alors, dans l'axe génie du Bernat, vous avez la colombe du Saint-Esprit qui sort de la lumière, du rayon, et qui fond sur vous brusquement. Donc, vous partez du bas de la place Saint-Pierre, vous la remontez lentement, vous entrez, vous faites un tout petit détour par le silence que je viens de décrire, vous ressortez et vous recevez, si vous êtes sensible, parce que évidemment les gens sont là, ils voient rien, ils n'entendent rien, et peu importe. Mais quand on est un tout petit peu intellectuellement, je parlais de ce directeur de magazine, très charmant d'ailleurs, dire que c'est pas fait pour le recueillement, pour la prière, c'est marrant parce que c'est vraiment la preuve qu'il y a un manque de sensibilité. Donc la sensibilité, ça consiste à être atteint autant que possible par tous les sens à la fois. C'est précisément ce qui se passe dans cette affaire catholique. Les cinq sens à la fois. Alors ça passe par l'oreille, c'est la musique, l'espace, c'est l'architecture, et, la peinture, la récitation, etc. Tout ça marche ensemble et... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est tout simplement très beau. Et comme c'est très beau, ça passe le plus souvent inaperçu.
Vous avez dit que la tentative d'assassinat contre le pape, Jean-Paul II, bien sûr, est un des événements majeurs qui se soit arrivé au XXe. Vous avez dit ça.
Je crois. Ouais.
Avec le 11 septembre.
Il y a un livre de moi qui s'appelle Le Secret.
Absolument. Dans
qui évoque ça, très, très précisément.
Oui. De Saint-Pierre aux appartements du pape, il n'y a pas beaucoup.
C'est à côté. Oui,
et vous l'avez rencontré, ce pape-là.
Bien sûr. D'abord, la Pologne. Je suis à New York en 1978, sauf erreur. Il y a un pape qui a fait une petite transition, qui a eu tout de suite des histoires de mafia, d'argent. Il y a un petit peu Monseigneur Marcinkus qui est condamné, qui doit vivre encore quelque part dans un coin du Vatican. Bon. Et je téléphone à Julien à Paris, qui me dit... Oh, c'est étonnant, il vient d'y avoir l'élection d'un pape qui est polonais. C'est le premier pape non-italien depuis 4 siècles. J'étais là avec le chairman, j'étais à l'université, un honorable correspondant, peut-être de la CIA après tout, et je lui dis, il vient de se passer un truc énorme, parce que là, il faut réagir très vite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va entraîner quoi ? Et je lui dis, le pape là qui vient d'arriver est polonais. Et il me dit, so what? Et le soir, je regarde la télévision CNN, je crois, et je vois un type à ce moment-là, sportif, en pleine forme, parlant un anglais parfait, s'exprimer, voilà, comme un sportif. Quoi. Et je me dis, bon. À ce moment-là, j'ai eu ce déclic. Je me dis s'il va y avoir des conséquences géopolitiques. Alors pour le coup, donc c'est la Pologne en insurrection, les chantiers Gdansk, etc. Vous connaissez. Enfin bon, Lech Walesa, tout ça. Ça m'a puissamment intéressé. 81, 13 mai, 10 mai, le président de la République française est annoncé, et on a gagné, j'entends, j'étais pas là.
Il pleuvait à Paris.
Oui, mais j'étais à Venise, moi. Donc je vois apparaître le nouveau président de la République, la momie, comme je l'appelle par ailleurs, battant des cils, etc., ébloui de ce qui vient de lui arriver providentiellement. 3 jours après, c'est 2 balles dans le ventre sur Jean-Paul II. Vous me direz que ça n'a aucun rapport. Bien entendu que ça n'a aucun rapport, sauf que ça en a un quand même, ne serait-ce que cette proximité immédiate. À partir de là, j'ai fait ce roman. Ce roman, je l'ai envoyé. Les gens du Vatican ont une particularité, c'est d'être extrêmement courtois. Et ça a été archivé. Chaque fois, je reçois une lettre, le Saint-Père, bénédiction, bon, d'accord. Bon, alors après ça, je fais un gros livre qui s'appelle La Divine Comédie, où je parle de Dante, et je fais la même chose, j'envoie. Pourquoi ? Parce que Dante a pris quand même des libertés incroyables. Il a mis les papes en enfer, etc. Ce qui m'intéressait, c'est pourquoi Dante a attendu si longtemps pour être réhabilité solennellement par l'Église catholique. Il y a donc une inscription au baptistère de Florence apposée par Paul VI. Donc c'est très tardif, c'est des siècles après. Ça m'intéresse beaucoup, c'est le temps dans ces fluctuations. Et puis Benoît XV, c'est le pape qui était pacifiste en 1914-1921, qui a averti, du mieux qu'il a pu, les Français et les Allemands que s'ils continuaient à leur boucherie invraisemblable de 1914-1918, ils allaient produire une catastrophe en Europe. Voilà ce qui s'appelle énoncer une prophétie majeure. Il s'est fait insulter. Pour les Français, c'était un pape boche. Pour les Allemands, c'était un pape traître. Enfin, bon, et pendant qu'on se tuait allègrement, pendant des flots de sang dans les tranchées. Voilà. Eh bien, Benoît XV est mort de chagrin. Et la chose qu'il a faite avant de mourir, c'est une homélie que j'ai republiée d'ailleurs, en l'honneur de Dante. Ce qui voulait dire, en somme, et même très clairement, vous feriez mieux de lire Dante que de vous égorger comme ça, au risque de provoquer une catastrophe qui d'ailleurs est venue très vite, puisque Hitler n'avait plus qu'un boulevard après ça. Bon. Alors, Benoît XV, j'envoie donc ce livre à Jean-Paul II, et je suis invité à lui remettre le livre moi-même. Voilà comment a eu lieu la remise de ce livre. Il me pose la main sur l'épaule, voilà, de façon avec un regard très étonnant d'ailleurs. Très, très laser. Alors ça a été photographié, la photo a été publiée. Quel scandale ! Comment j'avais pu m'agenouiller, c'est le protocole, me mettre un tout petit peu penché pour recevoir la bénédiction papale. En plus, si on arrive à le béatifier ou à le canoniser, c'est très bien, comme ça j'aurais été béni par un saint, pourquoi pas. Donc la photo a fait scandale, et j'ai un ami qui m'a dit « Mais comment ton père ne t'a pas appris qu'il ne fallait plier le genou devant personne ?» Je lui ai dit « Mais va plier le genou, je me soumets à un protocole très précis. » Et donc je remarque, alors après Benoît XV, que Benoît XVI qui vient d'arriver, très controversé, scandale des prêtres pédophiles, etc., etc., ça n'en finit pas. Rome, unique objet de mon ressentiment. Ça fait au moins la 5e, 6e fois, je reçois un petit peu ce qu'il raconte, qui reparle de Dante, et pas n'importe quoi de Dante, le chant 33 de Dante, le texte le plus mystique de la Divine Comédie. Voilà. Pourquoi cet intérêt pour les papes ? Eh bien parce que ce sont des acteurs majeurs de la vie de la planète, voilà, tout simplement, et qu'une histoire des papes vraiment fouillée n'existant pas, ça, elle manque, parce qu'on ne raconte là-dessus que la plupart du temps que des conneries approximatives, sans parler des réactions purement pavloviennes, si vous voulez. Donc, les papes, bon. Donc, moi, qui n'ai pas de préjugés, contrairement à André Breton, par exemple, c'est Maurice Reims qui m'a raconté ça. Ils étaient dans le sud-est de la France. Il y a un cloître merveilleux, là, qui s'appelle... c'est à Elne, je crois. Donc, ils rentrent pour visiter ce cloître absolument magnifique. Et Breton était resté dehors. Et Maurice Reims va le trouver. Il dit, mais enfin, André, venez voir, c'est magnifique. Non. Comme il y avait des gens, vous savez, qui n'entraient pas dans les églises, qui restaient dehors, ces francs-maçons, par exemple, etc. tout ça me fait rire. Enfin, on rentre partout, on est partout chez soi. Les synagogues de Venise sont merveilleuses et voilà, il n'y a aucune raison de ne pas rentrer dans les églises. Si vous ne rentrez pas dans les églises en Italie, vous perdez le contact direct et physique avec les trésors de la peinture, par exemple. Alors, il faut évidemment, les papes, c'est à mon avis, ils sont très bien, ils sont pacifistes. Il y a une seule question qu'on ne peut pas poser, c'est les questions sexuelles, justement. Mais ça, je m'en occupe tout seul, parce que je suis docteur, vous savez, il y a le docteur subtil, le docteur angélique. Moi, je suis docteur in peccato, je suis docteur en péché.
Tous vos livres sont l'occasion de voyages multiples. Alors, Rome, on vient d'en parler avec le secret. Bien d'autres encore. Venise, évidemment, qui est très présente dans vos livres. Venise que vous critiquez aujourd'hui. Il y a un petit côté chez vous, quand même. Excusez-moi de le dire, mais il y a un petit côté. C'était mieux avant, quand même.
Attendez,
que vous méprisez
vous dites,
un peu, que vous regardez
vous dites,
un petit peu à distance.
Quand vous dites c'était mieux avant, il faut bien préciser avant quand. Il faut voir l'histoire de l'Europe, par exemple. C'est très simple. L'Europe... C'est toute une civilisation qui, bon, périclite lentement, parce que lorsque ça a été à un tel niveau, ça se fait très très lentement. Non, ce qui est réactionnaire, c'est d'oublier l'histoire. Le fait de pouvoir saisir comment ça peut être très haut puis tomber très bas, et l'histoire est en dents de scie, hein. Donc c'est vrai que, par exemple, ce petit pays mondialisé désormais, pour laquelle il faudra un gouverneur de la finance, à écrire comme le père Ubu de Jarry, la finance PHYNNCE. Voilà, je vois déjà qu'il y a des candidats à la gouvernance. Strauss-Kahn serait un très bon gouverneur, je trouve. Enfin, le terme lui conviendrait. Président de la République, je trouve que c'est fini, ça. Non, ce qu'il faut, c'est essayer de juger son époque, là où elle est, où son point d'aveuglement. Moi, j'adore cette époque, si. Hein, j'adore Venise aujourd'hui parce que je me construis ma Venise. Je jette un coup d'œil simplement sur le fait qu'il y a là beaucoup de gens qui ne voient rien, qui ne sentent rien, qui n'écoutent rien, etc. Ce qui me paraît un enjeu quand même fondamental, mais pas sur le plan d'une politique. Au contraire, parce que de ce point de vue, je crois que ce que je dis est tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire, si vous préférez ne rien connaître, libre à vous. Mais enfin, l'obscurantisme, c'est quand même ça. ne plus savoir lire, ne plus savoir l'histoire. C'est ça l'obscurantisme de notre temps.
Et pour rester un peu sur l'Italie, puisque vous y allez beaucoup et que vous aimez beaucoup ce pays, est-ce qu'il vous semble que son dirigeant actuel, Silvio Berlusconi, justement, participe de cet oubli de la culture, du passé, du temps?
Mais Berlusconi n'a aucune importance, tout le monde s'acharne sur ce pauvre type complètement bouffon.
Pauvre type,
bien sûr, mais c'est la société qui est comme ça. Au moins, ce qui est vraiment ce qu'on peut regarder, c'est avec quel cynisme, tout à fait. Alors, enfin, il peut y avoir scandale sur scandale, justice, au moins... C'est d'un cynisme ébouriffant. C'est le mot merveilleux de Père Ubu. Ah, je tuerai tout le monde, je prendrai tout l'argent, je tuerai tout le monde et puis je m'en irai. Voilà. C'est tout ce qu'on veut, mais à la limite, c'est même pas hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'a aucune importance à mon avis, sauf si on a des opinions politiques et qu'on croit qu'il y aura des lendemains qui chantent, alors que le jour même, on n'arrête pas de déchanter du matin jusqu'au soir. Suivez les informations. Bon. Ça n'a aucune importance, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a le pape, et que c'est beaucoup plus important que ce pauvre type qui est là, pour l'instant, à faire le guignol. S'il y avait une gauche, par exemple, italienne, ben ça se saurait. Berlusconi serait déjà liquidé depuis longtemps. Ou alors les Français n'auraient pas voté pour Sarkozy. Ou alors, etc., etc., ça peut durer comme ça. Donc ce dont il faut se méfier, c'est le fait que ce serait la faute à qui ? Mais c'est la faute à soi, si on supporte Berlusconi, et si on supporte c'est les autres. Un de mes compatriotes, qui n'est autre que la Boétie, a écrit un livre qui n'est pas assez célèbre, qu'il faut relire tous les jours, ça s'appelle « La servitude volontaire ». Le tyran n'aurait aucun pouvoir si on ne le lui prêtait pas.
Encore, et les livres, donc je l'ai dit, l'occasion de voyages multiples. Et vous remarquez à ce sujet, vous qui avez beaucoup parcouru l'Europe, on reste en Europe pour l'instant, vous vous étonnez au passage que les écrivains français ne parlent jamais de ce continent. Vous dites comme s'il les effrayait avec son histoire tragique. Ou alors ils sont, vous dites un peu méchamment, mais assez, de façon assez drôle, braves français, glébeux provinciaux, mal arrachés au Cantal ou à la Corrèze. Éventuellement fasciné par l'exotisme. Au fond, ils vous parleraient plus facilement.
Ils n'ont jamais vu
l'océan. Voilà. Et à la limite, ils vous parleraient plus volontiers de lieux très éloignés, très exotiques que de leur Europe. On ne les voit jamais en Espagne, on ne les voit jamais en Italie, au bord du Rhin, du Danube.
Jamais. Jamais.
Sans parler de la Suède ou du Danemark.
Ils ne sont pas à Prague, ils ne sont pas en Angleterre, ils ne sont pas au Danemark, ils ne sont pas en Suède, en Hollande, ils ne sont pas en Allemagne du tout. Enfin, c'est comme si l'Europe n'existait pas. Qu'est-ce qui existe à ce moment-là? La plupart des intellectuels vous le prouvent alors à longueur de temps. Intellectuels, hein. Mais les écrivains, on ne sait pas très bien. Ils sont dans leur petit village, je ne sais pas, ou en banlieue, je ne sais rien. Mais enfin, bon, c'est tragique. Tragique. Je les accuse donc de lâcheté, de paresse.
De culpabilité aussi.
Mais oui, c'est ça.
Alors, une Europe qui a souffert.
Vichy, Moscou, voilà, c'est ça. Berlin, Moscou, ça va, oui, ça, bon, on a compris. Il y a, au contraire, à mon avis, une vie intense de l'Europe. Je suis un écrivain européen d'origine française, dira un dictionnaire chinois. Et là, ce qui m'étonne le plus, qu'est-ce qui préoccupe les esprits? Bon, évidemment, ça suit l'actualité. Ça dépend quelle actualité vous décidez de suivre. L'actualité de Jean-Sébastien Bach me paraît énorme. Enfin, ça c'est mon point de vue. Mais toujours comme référence, les États-Unis et le Proche-Orient. Bon, les États-Unis, Israël, alors l'Iran, etc. Bon, il n'y a que ça. C'est là que ça se passe, la géopolitique. Hein, voilà. Mais, écoutez, je suis désolé, il y a plein d'autres choses qui ont lieu. Et il me suffit de prendre même un train en France pour être ébloui à chaque fois par la beauté des paysages français, que je ressens intensément. Vous prenez l'avion, vous franchissez la Loire, vous arrivez sur l'Aquitaine, vous voyez tout miroiter, c'est le pays des eaux, où vous êtes en le train et vous voyez à partir de Niort, par exemple, ou un peu avant, les vaches apparaître, les sublimes vaches blanches ou tachetées marron, qui sont là, qui voient passer l'actualité à toute allure, qui n'en pensent pas moins, et que vraiment on sent qu'il y a une méditation des vaches. Les vaches dans les prés lentement s'empoisonnent, disait Apollinaire. Eh bien c'est beau, c'est magnifique. J'exagère exprès, mais enfin, un arbre ici me paraît aussi d'une actualité brûlante. Donc, ne plus voir la nature, pas l'écologie, vraiment un bavardage, etc. Non, être vraiment en train de se glisser. Il y a beaucoup de passages dans mes livres là-dessus, à propos de l'île de Ré, par exemple, quand je vois passer les oiseaux, les arbres, les fleurs. Le discours parfait commence par tout un petit livre sur les fleurs, parce que j'ai eu la curiosité simplement de regarder ce que à partir de soies peintes du 18e siècle, comment les poètes, les écrivains avaient parlé des fleurs au cours du temps. Ça donne un résultat, je ne m'attendais pas, un florilège tout à fait extraordinaire, en passant par la Chine notamment, et partout, le Cantique des Cantiques aussi bien. Proust, qui glisse son secret sexuel dans les fleurs.
Dans les Cattleya.
Mon Dieu, mais oui, qu'est-ce que c'est que faire Cattleya, voilà. Vous voyez, villes... c'est ça l'Europe. C'est-à-dire des merveilles qui sont à la disposition de tout le monde, comme jamais. De même, vous êtes le premier être humain dans l'histoire de l'humanité à pouvoir disposer de toute la bibliothèque, sans aucune restriction, sans aucune censure. Vous pouvez avoir une vidéothèque ahurissante, vous avez une audiothèque, c'est-à-dire vous avez en musique, mais quel aurait été le bonheur de... Et alors, il n'y a personne pour se servir de tout ça. Moi, je prétends, et c'est révolutionnaire, qu'il faut qu'un système nerveux existe, nouveau, pour se servir librement de tout ça, au lieu de baisser les bras et de sombrer dans une mélancolie profonde. La joie que Nietzsche, par exemple, qu'il aurait eu à rencontrer en Italie Cecilia Bartoli, au lieu d'être obligé de courir pour écouter Carmen de Bizet, pour s'amuser, parce que Wagner lui pesait sur les épaules, la polémique de Nietzsche par rapport à Wagner, il aurait eu 50 CD de musique baroque, qui n'a été redécouverte qu'il y a à peine 40 ou 50 ans. Donc tout est nouveau en Europe, tout est nouveau, si on sait où ça se passe.
Que vous parcourez vous rappelle toujours quelque chose, ça c'est c'est la culture qui est là, et vous allez chaque fois à la rencontre de quelqu'un. Si vous allez à Berlin, vous parlez
à Berlin,
de Hegel,
je sais très
si
exactement allez... ce que je vais voir, voilà. C'est bateau, l'embarquement positif qui est là,
voilà. Berlin, si ville. Vous allez à
alors il y a des villes artificielles, il y a des villes tout à fait artificielles qui ont été construites, on se demande pourquoi, parce que c'était administratif. Madrid par exemple est une ville tout à fait artificielle, Berlin aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'il faut aller à Berlin aujourd'hui, vivre à Berlin. Mais non, c'est pas la peine d'aller vivre à Berlin, donc vous avez Paris.
Il n'y a que le bateau pour sauver Berlin ?
À peu près.
À ce point ?
Oui, à peu près, sauf le fait
même
que...
aujourd'hui ?
Oh, oui, bien sûr. Autrement, vous tombez dans Gaspard Friedrich, voilà, c'est-à-dire des trucs romantico à la con. Non. Il y a des villes artificielles. Washington est une ville artificielle, mais où la nature est splendide. C'est-à-dire où vous avez des arbres admirables. C'est-à-dire... Mais c'est une ville artificielle, entre nord et sud, à cause de la guerre de sécession. Voilà. C'est des villes, donc, à moins d'être très important au Fonds monétaire international, qu'on n'a pas envie d'habiter vraiment. J'ai vécu très heureux à cause de la nature. Maintenant, non. Les grandes villes. Qui ont quelque chose à vous dire, c'est New York pour la modernité, c'est Rome, Venise, Naples, en passant si vous voulez, et puis c'est Paris.
Et Londres ?
Londres aussi, j'adore Londres. Oui,
Pourquoi vous aimez Londres ?
J'aime Londres à cause du fait que c'est une ville qui n'a pas l'air d'en être une, et qui est très étrange. C'est une ville qui... Oh, très difficile à bombarder, on l'a vu pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Là, les parcs, St. James Park, etc. Là, je prends l'Eurostar, s'il n'est pas bloqué sous la Manche, je vais tout près de Hyde Park et je sais très bien que je vais voir des canards et des oies qui ont l'air de penser à leurs conditions profondes. Et du vert. J'aime l'Angleterre.
Vous parlez comme Charles Trenet, là.
J'adore le vert. Ouais. Le vert anglais, le gazon.
Et les villes du Nord, dont vous dites que les Français ne s'occupent pas du tout. Vous êtes allé à Copenhague, alors ça c'est sur les traces de Céline, prisonnier.
Sur Céline, Copenhague est une ville très, très étonnante. Oui, ouais. Stockholm. On monte un peu sur les hauteurs de Stockholm et vous avez là brusquement le penseur de Rodin. Il y a quelques penseurs de Rodin disséminés. Alors, donc à Stockholm, le penseur de Rodin pense, par exemple. Bon, bonjour.
Vous écrivez dans ces villes-là? Vous y allez pour écrire?
Je prends des notes, oui. J'ai beaucoup écrit à New York, de façon très, très, très... C'était au moment où j'écrivais Paradis. Et je vivais très haut, au 18e étage, sur la... Là, le choc de violent de New York m'aidait beaucoup pour écrire ce texte sans ponctuation et rapide. Un peu camé, si vous voulez.
Si l'on parle des lieux, Philippe Solers, il faut aussi parler de Paris, bien entendu. Alors, vous avez déjà parlé de votre quartier, je ne sais plus... À quel moment?
Eh bien, ça, c'est
Paris
le...
où vous marchez beaucoup.
Oh, ben oui, mais ça c'est les Paris secrets. Il y a des Paris est plein de mystères. Vous entrez souvent. Regardez ici, là, vous êtes dans le jardin de Gallimard. Vous voyez, vous entrez et vous découvrez des choses que vous voyez très rarement. Vous vous promenez dans les rues, par exemple du 7e arrondissement. Ben, restons un petit peu. Vous levez la tête le soir, la nuit. Vous avez une ribambelle d'appartements absolument sublime, avec des plafonds peints, des bibliothèques. C'est forcément habité par des gens qui ne disent rien, parce que sinon, ils chanteraient les louanges de l'endroit où ils se trouvent. Vous allez à l'Observatoire, par là, le Luxembourg, là-bas. Paris est une ville d'une richesse, mais incroyable. C'est une ville de riches et de très pauvres. La misère est là, aux portes. Hein, voilà. Mais ça n'empêche pas que personne ne songe à évoquer la richesse de Paris, ce qui est quand même étrange, comme si ces gens n'avaient pas de langage pour évoquer leur plaisir. De la Lune a beaucoup changé entre le moment où je marchais comme un fou dans cette ville la nuit, ville complètement noire, complètement sanctionnée par le 19e siècle, et puis tout à coup, on l'a rafraîchie. Et elle est maintenant, allez-y, c'est une ville méconnaissable par rapport à celle que j'ai connue. C'est une ville qui a été restituée à son temps de façon révolutionnaire, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Stendhal arrive là en 1825-28, dit c'est le Stendhal à Bordeaux, il est ébloui. D'abord il compare Bordeaux à Venise, ensuite il dit que c'est la plus belle ville de France, sans aucune... Il pense qu'on est dévoué à Lyon, mais joueur à Bordeaux. Il s'interroge sur le caractère des habitants de cette région, qu'il appelle des viveurs. Il est alors, vraiment, alors, il y a Montesquieu, il va voir Montesquieu à la Brède, il va voir Montaigne. Bon. Bordeaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'emmener à 12 ans du lycée à la tour de Montaigne, ça a été pour moi un choc énorme. Qu'est-ce que fait ce type avec ses poutres? Pourquoi il a écrit ça en grec, en latin, etc. Qu'est-ce qui se passait? On s'est gorgé sous ses fenêtres. Et après ça, il s'en va voir le pape à Rome. Parce qu'il ne veut pas des innovations calviniennes. Hein, et il va vérifier si le Vatican de l'époque, il va même jusqu'à baiser la bulle du pape. Ce qu'au fond, je n'ai même pas fait. Donc il était encore plus audacieux que moi, plus scandaleux. Et donc, pour vérifier simplement si les livres latins et grecs étaient toujours là, si on ne les avait pas brûlés, s'il n'y avait pas de... Voilà. Et puis il va à Notre-Dame de Lorette pour mettre un ex-voto, le représentant avec sa femme et sa fille en train de prier. Cet épisode du voyage en Italie de Montaigne, toujours censuré, on se demande pourquoi. On m'en a jamais parlé au lycée. Bon, passons. Donc Bordeaux. Le port. Donc cette ville est blonde, ressuscitée. Et ressuscitée dans son être profond. La place de la Bourse à Bordeaux est une des plus belles places de France. Et elle s'appelait place Louis XV. On a retrouvé, la statue a été évidemment abattue au moment de la Révolution française. On sait très bien, on a le moulage de cette... Elle aurait pu être rétablie. Personnellement, je trouve que place Louis XV, c'est mieux que place de la Bourse, parce que la Bourse, ça commence à bien faire, surtout en ce moment. Ah, mais non, au conseil municipal, tout le monde a crié, mais que, vous savez quoi? J'ai quelqu'un qui m'a raconté ça. Place Louis XV, rétablir la place Louis XV, mais vous n'y pensez pas. Que dirait le canard enchaîné? Eh bien, le canard enchaîné a tort de ne pas aimer Louis XV. Simplement, c'est une ville, pour moi, de très grands souvenirs voluptueux à cause des... de volupté enfantine, à cause des jardins. Les jardins de Bordeaux, le jardin public merveilleux. Et puis, cet art de vivre, il faut bien appeler par son nom. Bon, le vin, c'est quelque chose. Écoutez, là, j'étais au lycée Montesquieu, aux environs de Bordeaux, à Talence. Je faisais beaucoup de vélo. Et pour rentrer chez moi, puisque je suis né là, à l'endroit que je vais vous dire, je suis né à 150 mètres, j'étais devant le château Aubryon, qui est un grave absolument superbe, qui n'a pas la même bouteille que les autres bouteilles de Bordeaux. Et je m'asseyais dans les vignes. Et j'écoutais le raisin, d'une certaine façon. Là, vous savez ce que c'est que les vignes, avec la rose qui est au bout de chaque... Voilà. Et vous savez très bien que là, vous vous arrêtez, si vous faites un mètre de plus, c'est pas le même sol. Vous êtes sur des sols qui sont plus ou moins productifs, avec des histoires d'ensoleillement ou de l'océan qui n'est pas loin. Tout ça, c'est une alchimie qui produit cette liqueur. Comme je dis souvent, on me dit qu'il y a du vin ailleurs, je n'en crois rien. Il y a un seul, c'est... Bon. Vous remontez dans ce qu'on appelle vers la Gironde. Vous commencez à vous perdre, comme en Toscane un peu. De temps en temps, vous avez un château. Je conseille à n'importe qui, s'il veut se cacher, de se cacher dans cette région, parce que vous serez introuvable. Les gens ne se fréquentent pas ou peu. Ils sont un château, de la forêt, un autre château, encore un château. Bon, je n'annonce pas les noms parce qu'ils sont... Sauf Margot, si je vous dis Margot, ça dit tout, n'est-ce pas, hein? Ou si je vous dis Ikem, ça c'est plus au sud, c'est le Sauternes, bon, la différence. Alors, vous montez vers l'estuaire, là où la Dordogne et la Garonne se rejoignent. Poème admirable de Hölderlin, Andenken. Il a fallu 2 siècles pour qu'on mette pour qu'on mette une plaque sur l'arrivée de Hölderlin en France. Hein. Deux siècles. En 1800.
Vous l'avez avec vous.
Ah oui. Le poète allemand Friedrich Hölderlin, 1770-1843. Il a vécu ici, je vois très bien l'endroit, c'est près des allées de Tourny, à Bordeaux. A ici vécu en 1802, Hölderlin. Et il y a quelques vers qui sont gravés dans le marbre. Pars donc le vent d'est, de tous les vents mon préféré. Voilà. Pars donc et porte mon salut à la belle Garonne et au jardin de Bordeaux. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Donc, en effet, vous voyez, les deux siècles, ça demeure. Il parle aussi, c'est un poème absolument admirable, des femmes brunes sur le sol de soie. L'éblouissement de Hölderlin arrivant à Bordeaux, c'est parmi les choses. Bon, Stendhal, Hölderlin, voilà, c'est quand même... Plus l'esprit du lieu, et l'esprit du lieu, c'est quand même le Parlement de Bordeaux qui vote le premier les droits aux Juifs, donc c'est la rue judaïque à Bordeaux, comme il y a la Giudecca à Venise, mais là il y a le ghetto, alors qu'à Bordeaux il n'y en a pas. Montaigne, c'est tout dire, ou à peu près, voilà. Donc, le lieu, l'art de vivre, le vin, le grand style classique, l'architecture admirable, que veut le peuple ? Quand on remonte vers l'estuaire de la Gironde, c'est-à-dire là où la Dordogne et la Garonne se mêlent, vous arrivez vers les montagnes de Rézinc, et tout à coup vous avez le phénomène qui s'appelle le mascaret. Le mascaret, ça consiste dans le fait que l'eau de l'océan rentre dans la confluence des deux fleuves et que dans l'eau douce et l'eau salée se mélangent. À ce moment-là, l'eau devient rouge. Et c'est très impressionnant parce que vous avez sur les berges le vin qui est en train, lui aussi, de mûrir. Vous passez donc alchimiquement dans une métamorphose de l'eau qui devient rouge. C'est très, très, très étonnant. Et vous avez à ce moment-là quoi ? Quelque chose d'un peu, je disais alchimique, d'un peu divin qui vous évoque à propos du vin... une présence de dieu grec, de Dionysos, quelque chose de ce genre que Hölderlin sent très bien lorsqu'il vient à Bordeaux. Il dit « Apollon m'a frappé », mais en fait c'est Dionysos, le dieu du vin. Et le dieu du vin entraîne aussi tous les dieux grecs, c'est-à-dire éventuellement les déesses qui peuvent être par là. Pour ce qui est aussi de cette alchimie, le vin... évoque aussi pour moi le vin de messe dans la messe catholique ou quand même à l'occasion d'une formulation sacramentelle il devient du sang et tout ça est lié pour moi l'eau, le vin, le sang et ce que ça peut vouloir dire. L'île de Ré, ça c'est une autre affaire, c'est-à-dire que là, je dois l'endroit, pas les constructions, parce qu'il y a eu des histoires, l'endroit précis en arrière de la grand-père, navigateur long cours. J'ai ces livres de marine, et c'est très touchant, les livres, les côtes de l'Afrique, etc. À un moment donné, il écrit « Nous partons aujourd'hui ». Alors, il part de Bordeaux, voilà, il part de Bordeaux pour les îles, parce que les îles, j'ai encore dans mes papiers quelque chose qui, de la famille. C'est-à-dire, on vous servait, dans les restaurants de Bordeaux, un vin retour des îles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous mettiez le vin dans des barriques et qu'on les envoyait comme ça à l'ouest, là-bas, dans les îles, et qu'ils revenaient. Donc, ils avaient le temps de mûrir. Ils avaient un goût particulier. Un vin retour des îles était un vin absolument supérieur aux autres, donc plus cher. Eh bien, là, ce navigateur... a vu cet endroit, il s'en est emparé. C'était une sorte de hameau. Il a vu quoi ? D'un seul coup d'œil, qu'il pouvait mettre son bateau à droite, attendre la marée pour partir pêcher. À gauche, qu'il pouvait tirer au fusil devant chez lui, assis sur son banc, le canard qui passait. Et donc, Art de Vivre, c'était mon grand-père maternel que j'ai connu. Peu importe, mais je ne suis pas parisien. C'est-à-dire les gens de l'île de Ré savent très, ne me considèrent pas comme un parisien. Il y a les Parisiens qui viennent, bon, la barbe. Enfin, ils ont de l'argent, il faut leur extorquer d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis considéré comme quelqu'un qui vient de là depuis très longtemps. Et la preuve, c'est que j'ai le droit de me faire enterrer dans le cimetière d'Ars-en-Ré, dans un endroit très précis, très, très émouvant. Parce que c'est à côté du carré des pilotes britanniques qui sont venus se cracher là, voilà. Venise, Ré, c'est aussi le même paysage, enfin, un peu de choses près. Et là, les nuits magnifiques, comme en bateau. Et à cause de cet ancêtre, qui a donc eu un œil de marin avisé, parce qu'on ne jette pas l'ancre n'importe où, on ne s'installe pas n'importe où, dans la dernière tempête, la maison était épargnée. 50 mètres à gauche, inondation, 50 mètres à droite, inondation. Les endroits qui ont le mieux résisté sont des endroits anciens. Ça me plaît assez que ça ait été vu et saisi par un marin.
Avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Adrien Gaza, mixage Jean-Louis Deloncle. Et nous retrouverons Philippe Solers samedi, dimanche prochain, à la même heure, pour un éloge du XVIIIe siècle.